Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. Nous allons faire deux lectures. La première dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Verset 23. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Une autre lecture, vous gardez la page parce qu'on y reviendra en conclusion. Dans le livre de Job, nous allons lire le chapitre 26 de Job, s'il vous plaît. Job, chapitre 26, on va lire le chapitre en entier. Job, chapitre 26. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles, et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les morts tremblent, au-dessus des eaux et de leurs habitants, devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Et la question nous intéresse, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Je répète, qui entendra le tonnerre de sa puissance? Si à l'enregistrement, vous ne savez pas quel titre mettre, vous pouvez mettre celui-ci. Samedi, il y a une dame qui est venue me visiter à la maison, et à un moment donné, on a dû ouvrir les portes parce qu'il faisait chaud. Et tout d'un coup, il y a eu le tonnerre. Vous savez, des fois, en plein jour, il n'y a pas de nuages, on entend un tonnerre. Et j'ai pensé à ce verset. Qui entendra le tonnerre de sa puissance? C'est ça que nous avons besoin. Que Dieu se manifeste par le tonnerre de sa puissance. Vous savez, Dieu, il veut le meilleur pour nous. Nous ne savons pas trop où nous en sommes. Nous sommes là, plusieurs ont prié dans le sens où, à juste titre, de prier pour que Dieu nous éclaire, pour savoir s'il n'y a pas des poutres dans nos yeux, plutôt que de regarder la paille. Nous en sommes à peu près tous là. Nous avons besoin de comprendre et de voir que Dieu veut le meilleur. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur dit, mais vous vous assemblez pour devenir pire. Pire. C'est quelque chose de catastrophique. Moi, si on me disait, mais tu sais, les chrétiens, ils s'assemblent, et plus ils s'assemblent dans ton église, plus ils empirent, je me dirais, mais je serais profondément meurtri. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Bon, il y avait des choses pour lesquelles ils étaient loués, les chrétiens, mais là, il leur dit, mais là, je ne vous loue pas du tout, parce que vous vous assemblez pour devenir pire. Et il n'y a rien de pire que ça, que de se rassembler pour ne pas faire de progrès. Ce texte nous parle des bords des voies de l'Éternel. Vous avez lu le chapitre, il nous parle de ce que l'on voit et de ce que l'on ne voit pas. Il y a un monde visible, il y a un monde invisible. Nous sommes surtout accaparés par ce qui est visible, bien sûr. Mais nous devrions quand même réaliser qu'il y a un monde invisible dans lequel se joue un grand combat. Il est parlé, vous avez vu, du serpent fuyard. C'est qui le serpent ? C'est le diable. Et dans ce texte, Dieu nous le révèle comme un serpent qui fuit. Gloire à Dieu. C'est pas intéressant ? Eh oui, c'est important. Hein ? La révélation de Satan, là, dans ce chapitre, nous le voyons en train de fuir. Le diable est puissant, mais il fuit lorsqu'on lui résiste. C'est pas écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est écrit dans l'épître de Jacques au chapitre 4 « Résistez-lui ». Et le seul moyen de résister au diable, c'est d'être revêtu de toutes les armes de Dieu. La Bible est catégorique « Revêtez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable ». Il n'y a que cette seule alternative, d'être revêtu chaque jour de toutes les armes pour pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Beaucoup de chrétiens ont cédé aux attaques de l'ennemi, se sont fait piéger, ont donné accès à Satan. Il n'en a pas fallu beaucoup. Vous savez, la Bible dit, ne donnez pas accès au Satan, ne lui laissez pas l'avantage. On a vite fait un peu d'amertume, la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. On a vite fait. Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas les stratégies bibliques, nous nous ferons piéger. Que celui qui est debout prenne garde. Et frères et sœurs, nous devons absolument veiller, oui, apprendre toutes les armes de Dieu. Lisez le livre de Josué et vous verrez combien on en a parlé l'autre jour. Dès le départ, Dieu a dit à cet homme pour qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprendrait, fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, médite le livre de la loi. Et on voit que cet homme, pour moi qui a été un des meilleurs chefs en Israël, a été une bénédiction parce qu'il n'a fait qu'une chose, il s'est fortifié. Dieu lui a parlé, il l'a pris au sérieux. Ce soir, prendrez-vous au sérieux ce que vous allez entendre. Oui, ce texte nous montre qu'il y a le monde physique et qu'il y a le monde spirituel. Il y a des choses qui ne se découvrent pas comme ça. On peut comprendre des choses sur la création. Il y a des gens qui découvrent la grandeur de Dieu. Une sœur me parlait tout à l'heure d'une vidéo qu'elle a vue des planètes qui sont de plus en plus grandes dans l'univers, des choses inouïes de la grandeur de Dieu. Et nos yeux peuvent voir la grandeur de Dieu par ce qu'il a créé. Mais il y a un monde spirituel. Et ces choses-là ne montent pas au cœur de l'homme, si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit. Il le dit, ces choses-là ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et il n'y a que l'Esprit Saint, l'ouverture à l'Esprit Saint, la sensibilité aux choses de Dieu qui permettront que ces choses montent. Il y a un monde spirituel, il y a un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais l'Église doit vivre dans la lumière, l'Église doit avoir le pouvoir de faire reculer les ténèbres. Est-ce que nous faisons reculer les ténèbres ou est-ce que nous les laissons s'épaissir au travers du péché que nous cautionnons dans notre vie? Oui, c'est bien les choses que l'on voit. Béni soit Dieu pour les choses que l'on voit. Béni soit Dieu pour les belles choses que l'on voit. Mais nous devrions être conscients que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre. Il y a des combats terribles et les gens se font piéger. Et c'est contre l'un, et c'est contre l'autre, et c'est contre celui-ci. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce texte nous dit, par rapport à ce qu'il décrit dans ce chapitre, ce ne sont que le bord de ses voies. Nous connaissons peu, mes frères et sœurs, nous sommes pauvres, reconnaissons-le. Nous connaissons que le bord de ses voies. Avons-nous fait des expériences? Oui. En avons-nous fait plusieurs? Oui. Voulons-nous en faire d'autres? Oui. mais nous ne connaissons que le bord de ses voies. C'est le bruit léger, vous avez vu hein? Verset 14, ce sont là les bords de ses voies, c'est le bruit léger qui nous en parvient. Et dans ce texte, Dieu est en train de nous dire, voilà, vous avez fait des expériences, vous connaissez le bord de ses voies, vous connaissez le petit bruit léger, mais voilà, ne voudriez-vous pas connaître le tonnerre de sa puissance? Et voilà, nous allons bien comprendre que si nous voulons vivre de plus grandes expériences, il y a un prix à payer. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Tout à l'heure, un frère priait dans le sens que nous lirons sur la terre. Mais vous savez, quand vous lisez le contexte, vous pouvez lire tant que vous voulez. La Bible, c'est un contexte de discipline dans l'Église. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, va et prends deux frères. C'est le contexte de la discipline, de la droiture, de l'obéissance dans l'Église qui fera qu'après, ce que nous demanderons à Dieu dans la prière, il le fera. Il faut tout le temps, pour comprendre une promesse, regarder le contexte. Sinon, ça ne sert à rien, ça devient de la superstition. Oui, il y a un prix à payer. Qui entendra le tonnerre de sa puissance? La question, Dieu peut la poser dans toutes les églises du monde entier. Je crois que Dieu veut ces choses. Dieu veut que nous ne connaissions plus que le bord de ses voies. Nous avons fait des expériences de guérison, de délivrance. Nous avons vu certaines choses merveilleuses. Mais je vous le dis, ce ne sont que le bord de ses voies. La question, c'est Dieu qui la pose. Qui voudrait, attention, on va nous répondre oui. Qui voudrait entendre le tonnerre de la puissance de Dieu? Que faut-il faire? C'est ça qui nous intéresse. Que faut-il faire? Avant, on va voir une histoire où le tonnerre de Dieu est tombé. C'est la meilleure façon de voir comment, dans l'Ancien Testament, le tonnerre de Dieu est tombé. Alors, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 7. On va lire un texte, et vous allez voir ce qui s'est passé pour que le tonnerre tombe. C'est ça qui nous intéresse. Parce que la question est excellente, c'est Dieu qui la pose. C'est Dieu qui la pose. Donc, elle nous intéresse, Dieu veut le meilleur. Dieu veut sauver des multitudes d'hommes et de femmes, il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc nous allons voir un texte, 1 Samuel chapitre 7, lisez-le avec moi de tout votre cœur. N'oubliez pas, c'est la parole du Seigneur et il y a des clés là-dedans, dans ce chapitre. Vous avez votre Bible? Lisez avec moi s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 7 verset 1er. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Oui, cet esprit d'obéissance immédiate. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de prier, de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Regardez bien la suite. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et il les mit en déroute. Ils furent battus devant l'Éternel et la suite, bien sûr, se termine très bien. Amen. Le tonnerre de l'Éternel. Quand Dieu intervient par la puissance de son tonnerre, parce que ce que l'on fait lui est agréable. Mes frères et sœurs, nous connaissons le bord de ses voies, que son nom soit béni. Alléluia. Vous pouvez dire alléluia? Oui, nous connaissons le bord de ses voies. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous pouvons tous faire une liste extraordinaire de ce que Dieu est bon. Oui, mais c'est le bruit léger. Et Dieu veut mieux. Dieu veut plus. Dieu voudrait que le tonnerre se manifeste. Vous avez vu quand le tonnerre tombe, comme les enfants, ils ont peur, ils sont affolés. Mais le tonnerre de sa puissance, c'est la puissance de Dieu qui vient sur l'Église. Et là, nous avons l'exemple, nous avons l'enseignement. David, 20 ans plus tôt, avait ramené l'arche qui était chez les Philistins. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien de ramener l'arche de Dieu en Israël? Bien sûr, parce que l'arche représentait la présence de Dieu. Vous êtes d'accord? Et pendant 20 ans, ils avaient l'arche chez eux et rien ne se passait malgré le fait qu'il y ait donc la présence de Dieu. Vous me suivez? Mais dites-moi, est-ce que nous ne sommes pas dans le même cas? Nous savons que Dieu est au milieu de nous, oui ou non? Est-ce que la présence de Dieu est au milieu de nous? Personne ne peut dire l'inverse. Personne, à part les païens, les impies, les chrétiens qui n'y comprennent rien, mais tous les chrétiens qui respectent la parole de Dieu peuvent tous dire, oui, ça je le sais, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Il est là, il l'a promis. Il ne l'a pas dit, il l'a promis. Il faut faire attention. Quand Dieu promet quelque chose, c'est incontournable, c'est inchangeable. Et là, nous avons le même cas de figure. Ils avaient ramené l'arche de l'Éternel. Ça avait été un sujet de joie. Et pendant 20 ans, l'arche était là. Et ils étaient oppressés par les Philistins. Que c'est dommage. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, nous sommes exactement dans le même cas de figure. L'Église est là sur la terre, la présence de Dieu est au milieu de nous, nous connaissons le bord de ses voies, nous pouvons tous témoigner régulièrement de petites choses que Dieu fait dans notre vie. Et ça, il ne faut pas non plus le mépriser, attention. Surtout, ne méprisons pas les faibles commencements, toutes les petites choses que Dieu nous donne. Ça ne serait pas respectueux, ça ne serait pas intelligent et ça ne serait pas un bon témoignage que de mépriser les petites choses que Dieu nous accorde. Mais Dieu nous dit ce soir, voilà, mais je peux continuer à ce que vous fassiez en sorte que vous connaissiez le bord de mes voies, que vous connaissiez le bruit léger de ma présence. Mais je voudrais que vous connaissiez le tonnerre de ma puissance. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu au verset, on l'a lu, le verset 3, la fin du verset 3, ils étaient oppressés par les Philistins. Vous voyez, il vous délivrera de la main des Philistins. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Au bout de 20 ans, comme quoi il en faut du temps pour réaliser qu'on pourrait avoir mieux. Enfin, il s'est écrit, mais ça nous fait honte en même temps. Oui ou non? Au bout de 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes. Ils ont commencé à réagir. Il y a eu une réaction. Ils ont dû dire, ça suffit, il y en a assez. De voir que ce sont les ténèbres qui s'épaississent. Il y a des problèmes. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses à régler. Si Dieu ne bénit pas, ce n'est pas de son côté. On ne va pas avoir le culot de dire ce que les croyants du temps d'Ésaïe disaient. Oui, la main de l'Éternel est trop courte pour bénir. C'est pas sérieux ça. Quand quelqu'un met la faute du côté de Dieu, malheur à lui. Parce que la Bible dit, malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Bon, ça, ce n'est pas la peine d'en parler ce soir. Toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Les gens, ils ont commencé à dire, bon, mais il y en a marre, ça suffit. Il y en a assez d'être oppressés. Il y en a assez. Et il y a eu une unité, tous les croyants, bien sûr, certainement que Samuel devait prier depuis un moment, ça commençait à faire 20 ans. Ils sont restés oppressés 20 ans pour rien. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais enfin, là on le voit bien. Et ils ont dit, il faut prier. Il ne faut pas prier du bout des lèvres. Il nous est dit qu'ils ont poussé des gémissements vers l'Éternel. La souffrance était là. Ils en avaient assez. Ils souffraient trop. Ça faisait trop longtemps. Ils étaient là. Il y avait le peuple. C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Ils étaient chez eux, à leur place. Ils avaient l'arche de l'Éternel, mais celle ne servait à rien. Parce qu'il y avait du péché dans le peuple de Dieu. Et il y a, les délivrances commencent toujours par l'unité du peuple qui se met à prier. C'est Jérémie qui dit, mais pousse des gémissements pour la vie de tes enfants. Vous ne croyez pas qu'il faut pleurer pour nos enfants? Bien sûr qu'on ne pleure pas sur commande, mais c'est clair. Mais si on n'a pas le fardeau des âmes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous croyez que Dieu peut sauver tous nos enfants? Seigneur, sauve-les. C'est pas interdit de pleurer dans une église pour le salut de ses enfants. Bien sûr, c'est du désordre. On le sent quand c'est charnel. On le sent quand c'est mystique, quand c'est sentimental. Mais quand c'est profond et quand c'est spirituel, on le sait aussi. Pousse des gémissements vers Dieu pour le salut de tes enfants, dira Jérémie. Regardez dans l'Exode, regardez la page, hein. Regardez dans l'Exode, comment la délivrance est venue. Pourquoi Dieu a envoyé Moïse? Bien sûr que ça faisait partie du plan de Dieu, tout ça. Mais quand est-ce que ça s'est débloqué? Exode, chapitre 2, ça s'est débloqué de la même manière. De la même manière. Il y avait une oppression, vous savez, c'était terrible. Pharaon était dans une haine terrible. C'était un véritable despote, c'était un véritable Hitler. Il a fait tuer des dizaines de milliers d'enfants, tout petits. C'était quelque chose de terrible. C'était vraiment un malade, hein, Pharaon. Pour faire tuer tous les enfants, il faut être malade. C'est clair. Bon, on va pas s'intéresser à Pharaon. On va s'intéresser à notre sujet. Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après. Ah, ces mots-là, longtemps après, ça nous plaît pas trop, ça. Hein. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Alors, ce n'est pas une question de décibels, bien sûr, et de larmes que l'on verse pour verser, mais c'est une question de souffrance. Ces cris que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Regardez au chapitre 6. Au chapitre 6, c'est le verset 5. Regardez comment Dieu parle. Pourquoi Dieu est intervenu? Pourquoi Dieu a envoyé Moïse? Parce que tout un peuple gémissait, pleurait, souffrait. Et ils ont dû exprimer cette souffrance. Parce qu'on peut exprimer la souffrance en râlant. Vous comprenez? C'est pas vrai? En râlant, en rechignant. Ou on peut exprimer la souffrance en la répandant devant le Seigneur. Et c'est autre chose. J'ai entendu, vous voyez, Dieu entend. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Est-ce que vous pouvez douter un instant que Dieu se souvienne de son alliance, que Dieu oublie son alliance? La nôtre, la nouvelle alliance? Est-ce que Dieu oublierait l'alliance qu'il a faite au calvaire avec nous? Est-ce que Dieu pourrait l'oublier un instant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire oui, Dieu nous a oubliés? Non, c'est pas Dieu qui nous a oubliés. C'est nous qui avons oublié de comprendre que pour que le tonnerre descende, il y a des conditions. Ils avaient ramené l'arche, David avait tout fait, c'était extraordinaire, mais ça n'a servi à rien. Et la présence de Dieu, elle est là, c'est évident, mais elle ne servira à rien si nous ne commençons pas à comprendre que le peuple de Dieu doit vivre dans une vie de prière, dans une vie d'intercession, dans une vie de supplication, d'avoir le fardeau des âmes. Les chrétiens, ils prient, ils vont me dire, ils prient, mais ils prient pour eux, ils prient pour leur examen, ils prient pour que la journée se passe bien, pour que les gens soient sympas, pour que le trafic soit pas trop encombré, Seigneur, pour que je trouve une place devant l'église. Mais vous comprenez bien qu'on est loin de ce qu'on est en train de voir ce soir. C'est vrai que Dieu peut vous trouver une place devant l'église. Est-ce que c'est possible? Vous l'avez déjà fait de prier pour ça? Oui, moi aussi. Mais en fait, je veux dire, c'est pas ça la supplication. C'est pas ça l'intercession. C'est pas ça le fardeau des âmes. C'est vrai que Dieu bénit dans tous les domaines. Oui ou non? et que si on a des bénédictions matérielles, tout ça c'est un effet de la grâce de Dieu. Et attention, c'est pas parce que le besoin est immense, parce que les fardeaux sont là, parce que les ténèbres s'épaississent, ce qu'il ne faut pas oublier, les petites choses. Mais que nos prières ne soient pas consacrées qu'à des petites choses et qu'à des intérêts personnels. Là, ils ont gémi, ils n'en pouvaient plus. Et je ne sais pas s'il faudra qu'on attende encore un peu, peut-être que les choses aillent encore plus mal, que les églises aillent encore plus mal, que les églises chutent, que les pasteurs chutent, que le péché soit de plus... Est-ce qu'il faut descendre encore un peu plus pour que ça nous arrache les gémissements? Moi, je trouve que ça va beaucoup, beaucoup mal. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas? Vous connaissez ce qui se passe dans les églises? Vous n'entendez pas? En 3 ans, il y a 36 pasteurs qui ont chuté ou démissionné. Moi, je trouve que dans le sud de la France, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Combien de chrétiens ont chuté? Combien de couples ont divorcé? On n'est pas là pour juger. Notre cœur est brisé, on ne juge pas. On a de la souffrance. On en parlait hier au conseil d'administration, quand on évoque certaines choses, ce n'est pas de la médisance ou de la calomnie, c'est de la souffrance. La souffrance, de toute façon, il faut qu'elle s'exprime. Oui ou non? Est-ce qu'il faut attendre encore? C'est la question que je me pose. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, j'en sais rien. Ça fait combien d'années que nous tolérons le péché dans les églises? Est-ce qu'on peut attendre encore longtemps? On peut attendre le retour du Seigneur. Il y a des gens qui ont croisé les bras. Et maintenant, j'attends que le Seigneur vienne. Moi, écoutez, j'en ai assez de prier, je me suis découragé. Mais attendez, que c'est dommage. Moi, je suis persuadé que si le Seigneur nous parle ou du bord de ses voies ou du tonnerre de sa puissance, que nous avons un choix à faire. Et il faut que ça commence par des prières intenses. Et ça, ça se choisit. Quand on voit les hommes de Dieu, ils ont choisi des prières intenses. Et je reviens sur les décibels. Ce n'est pas une question de crier à haute voix. Anne, dans le temple, quand elle en a assez de sa stérilité, elle nous a dit qu'elle a crié à Dieu, mais on n'a pas entendu un mot. Elle priait dans son cœur. Elle criait à Dieu. Ce n'est pas une question de décibels. C'est que la foi prend le dessus sur tout. C'est que la soif de Dieu prend le dessus sur tout le reste. La foi prend le dessus sur le doute. La soif prend le dessus sur l'indifférence. Les gens rétrogradent, pourquoi? Ça commence, il y a des textes dans la Bible, je n'ai pas le temps de le voir ce soir. Ça commence par l'indifférence. Le diable, il ne va pas vous mettre de suite une peau de banane. Ça commence par l'indifférence. On est fatigué, alors on prie moins. Dieu n'a pas exaucé mes prières. Alors j'arrête de prier. Et ça nous entraîne dans l'indifférence. Là, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, Dieu agit. Il y en avait assez, ils étaient oppressés. Bien sûr que nous, au niveau local, c'est vrai qu'on est dans une assemblée, on ne va pas cracher dans la soupe. Excusez-moi l'expression, elle n'est pas très glorieuse, mais elle explique bien ce que ça veut dire. Seigneur nous bénit. Mais il n'y a pas que l'église de Sainte-Agne, il y a toutes les assemblées. Il y en a des assemblées, il n'y a pas que notre dénomination. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps que quelqu'un commence à se lever? Qu'une église commence à se lever? Il y a des gens qui tolèrent, ici dans l'église, le péché dans leur vie. Et là, Samuel leur a dit, écoutez, vous voulez voir le tonnerre? Vous voulez connaître le tonnerre de sa puissance? Il va falloir commencer par prier sérieusement. Ils l'ont fait, tous. Ils ont eu confiance. C'était un homme de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus confiance au pasteur. On l'entend ça, c'est pas vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? J'exagère? On n'a plus confiance. Mais c'est triste. Mais on a tout fait pour. J'en suis conscient aussi. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire confiance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable. Et si le Seigneur nous dit que si on crie vers l'Éternel, il commencera à agir, il commencera à agir. Et dans ce fameux texte de Samuel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu une parole de Dieu. Voilà, oui, il y a la présence de Dieu. Oui, il y a l'arche. Et ça fait 20 ans que les Philistins nous oppressent. Mais voilà, il y a une chose à faire. Vous priez et vous ôtez les dieux étrangers qu'il y a dans vos maisons. Et c'est peut-être là que le Seigneur nous attend, mes frères et sœurs. Dans les maisons, mais peut-être dans les cœurs surtout. Parce que les idoles, ce ne sont pas... Bien sûr que pour nous, pays catholique, les idoles, ce sont des statues. Vous voyez, pour nous, les idoles, c'est un flash. Ah, il y a une idole. Celui-là ou là, j'étais dans une maison, il y avait une idole. Il y a encore une idole. On va chez des gens, ah vous avez une idole, mais le Seigneur pourrait nous dire, mais toi tu as une fortune dans ton cœur. Dans ton cœur. Et le problème aujourd'hui, dans le mouvement évangélique, il est bien sûr certain qu'un véritable chrétien n'a pas d'idole dans sa maison. Il n'a pas des bouddhas, il n'a pas des statues de la Sainte Vierge, des statues de ceci, en or, en plâtre, en argent, qu'importe. Un chrétien qui est passé par la conversion, il a abandonné les idoles. La Bible dit que quelqu'un qui se convertit, il s'est converti en abandonnant les idoles. Si vous avez toujours des idoles, c'est que vous n'êtes pas converti. Vous pouvez avoir une discussion avec moi si vous le voulez, je vous le montrerai bibliquement. Mais les idoles, elles sont dans le cœur. Regardez dans Ézéchiel, et dans Ézéchiel au chapitre 14, c'est une parole terrible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lue, mais je suis persuadé que les jeunes qui sont des heures sur Internet portent une idole dans leur cœur. Je vous le dis, sérieusement, c'est une idole. Moi, il y a des jeunes qui m'ont dit, on passe 3-4 heures sur Internet. Ils ne sont pas capables de lire la Bible une demi-heure. C'est grave, cette affaire. Regardez Ézéchiel 14. Mes frères et sœurs, si nous voulons voir le tonnerre de sa puissance, il faut que nous nous décidions. Il faut que nous choisissions. C'est écrit, choisis la vie ou... Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur ? Choisissez la vie ou la mort. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et c'est des choses sérieuses, parce que le salut de nos enfants, le salut de cette population est lié à la sanctification. C'est M. Gaillard qui rappelait mardi dernier que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui, il y avait la présence de Dieu, il y avait l'arche, mais elle ne servait à rien. Regardez Ézéchiel 14. « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, regardez bien, ces gens-là, portent leurs idoles où ? Vous avez vu ? Ça ne se voit pas, ça. Il n'y a que Dieu qui le sait. Dans leur cœur. Mais regardez les conséquences. Les conséquences sont furieuses. Et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ? C'est pourquoi parle-leur, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qu'il a fait tomber dans son iniquité, regardez bien, s'il vient s'adresser au prophète, voyez, il y a une solution, bien sûr. Moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Mais regardez le verset 6, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, on pourrait dire, mais dis à l'église de Toulouse, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. On voit bien que le Dieu, il a toujours une idée derrière, bien conçue, c'est qu'il puisse manifester sa bénédiction. Il n'est pas là avec son gourdin en train de dire, voilà, je vous attends au tournant. Bien sûr, Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce, la porte est ouverte, ne voyez pas Dieu en train de vous attendre au tournant pour vous mettre un coup de massue sur la tête. Nous devrions voir un Dieu qui nous dit, mais oui, vous connaissez le bord de mes voies, vous connaissez plein de bonnes choses, je suis ce Père éternel, ce Dieu merveilleux, mais je voudrais manifester le tonnerre de ma puissance dans votre Église. Alors il faut se détourner, c'est une question, c'est individuel, ça me concerne à moi, par ma vie de communion avec Dieu, ça te concerne à toi mon frère, ça te concerne à toi ma sœur, est-ce qu'il y a une idole dans ta vie, est-ce qu'il y a un péché, est-ce qu'il y a une idole qui te fera tomber. Vous savez, ce que vous ne voulez pas perdre, ça vous perdra, c'est comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui ne renonce pas, il tombera, c'est dit autrement mais c'est pareil. Il y avait des idoles. Et il y a des idoles dans l'église. Il y a des jeunes qui ont des idoles dans leur cœur. Il y a des hommes, des femmes qui ont des idoles dans leur cœur, qui prennent la place de Dieu. Alors je le répète, ce n'est pas les idoles que peut-être que le diable vous présente. Des choses qui paraissent peut-être perverses, grossières. La pornographie, je ne sais pas moi. La débauche, tout ce que vous voudrez. Je ne sais pas. Mais des choses qui tout simplement empêche que Dieu ait la première place. Et je crois qu'il faut que chacun dise, Seigneur, éclaire-moi. Il y a des choses très, 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 très saines qui peuvent empêcher un chrétien de faire son culte. Parce que je crois, quand on voit plusieurs textes où à l'offrande du matin, Dieu a manifesté sa bénédiction.
Vous savez, cette offrande du matin, c'est le temps où on priait. L'offrande du matin, c'est ou l'offrande du soir. Je n'ai jamais fait d'études là-dessus. Mais l'offrande du matin, vous savez, quand le jour se lève, quand on commence à y voir, le soleil n'est pas sorti. D'accord ? Il y a un temps où il fait jour avant que le soleil se lève. Et le temps, il commence à faire jour jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est le temps où Daniel, par exemple, se tenait devant Dieu. L'offrande du matin et l'offrande... Et pareil, quand le soleil se couche, il ne fait pas encore nuit. Ce sont deux temps où Daniel, en particulier, se tenait devant Dieu. Et combien de fois ? C'est là que l'ange Gabriel lui est apparu, au moment de l'offrande du soir. L'ange Gabriel lui est apparu. Il était en train de quoi faire ? De prier Dieu. Vous vous rendez compte qu'à cet homme, il y a des milliers d'années, Dieu lui a donné la révélation de ce qui va se passer à la fin du monde. Et Dieu dit qu'il fera connaître ses secrets à ses serviteurs. Nous n'avons pas un Dieu qui nous attend, je le répète, avec un gourdin. Nous avons un Dieu plein d'amour. Vous le croyez ? Un Dieu qui nous dit ce soir, tu as une idole, enlève-la. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu avec moi ? Dans Samuel, ôtez les idoles. Enlevez-les. Si ta main droite est une occasion de chute, coupez-la. Ça n'a rien à voir avec, bien sûr, une amputation. J'ai entendu qu'aux États-Unis, il y avait un homme qui s'était crevé les yeux. Un chrétien qui était mystique sûrement, puisque Jésus a dit, si ton œil droit est une occasion de chute, mais vous savez, ça n'a pas réglé le problème, parce que vous pouvez couper la main, c'est pas pour ça que vous ne regarderez plus la télévision des choses qui sont mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire ? Le problème, il n'est pas dans la main, le problème, il est là-dedans, et surtout là-dedans, dans le cœur. Enlevez les idoles, enlevez les artacés, enlevez-les de votre cœur. Le Seigneur vous aime. Dieu ne joue pas cache-cache. S'il n'y a pas d'idole, il n'y en a pas. N'en cherchez pas s'il n'y en a pas. Il y a des gens, des fois, qui me disent, oh, je me demande ce qui ne va pas dans ma vie. Mais c'est qu'il n'y a rien. Écoutez, s'il n'y a rien, il n'y a rien. N'allez pas chercher les péchés là où il n'y en a pas. Il y a des gens, des fois, ils se triturent l'esprit. Je suis sûr qu'il y a peut-être quelque chose. Je dis, mais écoutez, quand vous vous recueillez, le Seigneur vous montre ce qui ne va pas. Oui ou non ? C'est pas vrai quand même. Vous croyez que Dieu va vous faire comme ça, attendre ? Écoutez, moi je ne connais pas ce Dieu-là. Moi je crois que nous avons un Dieu qui, quand on lit la parole, il nous éclaire. Et le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, peut-être demain matin, peut-être maintenant, peut-être dans 5 minutes alors qu'on va fermer les yeux, peut-être ce soir en rentrant, vous allez lire un texte, et Dieu va vous parler. Et Dieu va vous parler. Je me souviens de ce témoignage parce que hier je lisais dans la Genèse, je lisais, quand Dieu dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Et je me souviens, toute la journée, je pensais à un pasteur qui est président dans un pays. C'est un gars que j'ai connu et je pensais à lui. Et le soir, à 7h, je téléphone. Et il était en train de prier, Seigneur, parle-moi. Il était dans sa voiture. Il y a du décalage horaire. Et je l'appelais. J'ai dit, écoutez, il faut que je vous appelle. Et je vais vous dire un verset. Sois intègre et marche devant ma face. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, j'avais besoin, parce qu'il devait prendre une décision très difficile. Et il a pris la décision d'être intègre. Et Dieu l'a béni. Dieu nous parle, mes frères et sœurs. Quand on ouvre les oreilles, quand on ouvre les yeux, je ne parle pas des yeux du cœur et les oreilles du cœur, le Seigneur, il nous parle. Si on est honnête, il n'y aura pas besoin de chercher pendant 3 heures quel est le péché qui fait obstacle à la bénédiction. Et dans une église où on veut voir la gloire de Dieu, on devrait tous avoir l'honnêteté de dire si dans ma vie, dans mon ministère, il y a quelque chose qui fait obstacle à la prière, eh bien je dois le régler ou je dois me retirer. Parce que je ne veux pas être un empêchement à la gloire de Dieu. Ça vous choque peut-être. Mais est-ce qu'on veut voir le bord de ses voies ? Ça, on le verra jusqu'à la fin. Vous le savez, Dieu fait briller le soleil sur les justes et sur les méchants. Vous voulez voir le bord de ses voies ou vous voulez voir le tonnerre de sa puissance ? Eh bien, il faut qu'on soit tous honnêtes. Seigneur, s'il y a un péché dans ma vie, ou je le règle, ou je me retire. Ça vous choque ? Ça vous choque ce que je vous dis ?
Non.
Est-ce qu'on veut vraiment voir la gloire de Dieu ? Est-ce que vraiment on est soucieux ? On le sait, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas besoin de chercher à se dandiner, à faire ceci, à faire cela, à faire venir des grands prédicateurs, à faire... Ça ne sert à rien. S'il y a du péché dans l'Église, on peut faire ce qu'on voudra, le Seigneur ne bénira pas. Oui, il bénira quand même. Je répète, on connaîtra le bruit de ses pas, on connaîtra le bruit léger de ses voix. Bon, mais ça, quand on a un Dieu comme le nôtre, on pourrait quand même voir un peu plus grand. Et nous devrions être honnêtes. Vous avez prié pour que Dieu vous parle ? On est venu pour quoi ce soir dans la maison du Seigneur ? Parce que pour la communion fraternelle, comme le disait Alexandre, on n'est pas venu que pour la communion fraternelle. On est bien dans la communion fraternelle. Vous aimez la communion fraternelle ? Mais est-ce que vous voulez voir plus que la communion fraternelle ? Dieu vous a béni aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu à boire ? Est-ce que vous avez eu à manger ? Est-ce que vous avez eu à l'abri ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un lit ? Est-ce que vous avez un toit ? Est-ce que vous avez ces choses ? Bon, Dieu vous a béni. Oui ou non ? Est-ce que vous voulez voir le tonnerre de sa puissance ? Eh bien, commençons à prier comme peut-être nous n'avons jamais prié. Même s'il n'y a pas des mots qui sortent à haute voix, mais que dans notre cœur, cette souffrance commence à s'exprimer. Non, je ne céderai pas, je continuerai. Je ferai comme vous. Je pensais à Jacob, quand il en a eu assez, après toutes ces magouilles et ces combines, quand il a appris que son frère venait à sa rencontre, il a fallu, voyez, un gros clash, pour qu'il apprenne que son frère venait, au bout de 20 ans, là aussi, tiens, au bout de 20 ans, à sa rencontre, avec 400 soldats, pour le tuer. Là, il a en plus usé d'un stratagème, il a envoyé une de ses femmes avec des troupeaux, puis après d'autres troupeaux, puis après il a envoyé sa deuxième femme, comme ça, le temps qu'il décimerait la famille, lui il aurait le temps de... C'est ça qu'il avait prévu. Voyez cet homme mauvais, mais il a fallu qu'il pleure. On va lire quand même ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça s'est passé seul, avec Dieu, parce qu'on le lit, mais il y a des choses, il y a des indications précises. Regardez dans Osée. Au chapitre 12, on voit ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Et cet homme a été changé de Jacob qu'il était le trompeur. Dieu lui a dit, c'est fini, tu t'appelleras plus le trompeur. Tu t'appelleras comment ? Comment il l'a appelé ?
Israël.
Ça veut dire vainqueur avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là ? Bien sûr, on sait qu'il a lutté avec l'ange, mais il manque quelque chose. Et il y a quelque chose qu'on a besoin de savoir. Et c'est écrit dans Osée au chapitre 12 et au verset 4. Bon, au verset 4, il nous est parlé que déjà dans le sein de sa mère, il était déjà compliqué. Osée 12, verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Vous voyez que déjà, on voyait le caractère du bonhomme, je vous le dis. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. À ne pas confondre avec ceux qui, à cause du péché, luttent contre Dieu. Attention. Quand on lutte contre Dieu, alors là c'est grave. Quand on lutte avec Dieu, non, c'est bon. Et peut-être que ce soir, j'espère que vous allez lutter avec Dieu pour avoir la victoire. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Regardez bien ce qui s'est passé. Il pleura. Il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Il avait déjà fait une expérience dans le passé. C'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel, et toi, parce que c'est bien de parler de Jacob, mais toi, mon frère, toi, ma sœur, reviens à ton Dieu. Entends la parole de Jésus ce soir. Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Si vous le connaissez, vous pouvez espérer. Vous ne vous sentirez pas culpabilisé, même si vous êtes dans un péché, ou si Dieu est en train de vous montrer plusieurs péchés, tant mieux. Parce que Dieu, par l'Esprit, s'il ne nous montre pas le péché, alors là, c'est que vraiment, on est dans le rouge vif, croyez-moi. Mais si le Seigneur est en train de vous montrer un péché, bénissez-le. Le heureux l'homme que Dieu châtie. Vous pouvez espérer en lui. Vous avez un Dieu ce soir qui a les bras ouverts. Mais vous le savez, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ils ont gémi, ils ont prié, ils ont enlevé les idoles, ils ont continué à prier. Ils ont demandé au pasteur, prie, prie, ne cesse pas de prier. Si vous deviez me dire quelque chose au pasteur, de prier, d'exercer notre ministère, de nous attacher au ministère de la parole et de la prière, ne faites pas comme ces chrétiens qui sont tout le temps en train de nous dire, il faut aller visiter un tel, il faut aller visiter un tel. Écoutez-moi, moi je vais vous dire, les hommes de Dieu, ils doivent s'adonner à la prière et au ministère de la parole. Et Samuel a prié et il a reçu la pensée de Dieu. Il fallait qu'il offre un agneau tout entier. Et ça nous parle du sacrifice total de notre vie qui doit être sur l'autel. Dieu nous dit, c'est pour ça que Jésus a dit avant de mourir, vous avez vu ce qu'il a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et là, il va parler que Dieu l'a glorifié et puis tout d'un coup, il va y avoir un tonnerre. Vous avez vu ? Ils ont entendu le tonnerre. Pourquoi ? Parce que Jésus parlait de sa mort. Jésus parlait de notre renoncement. Si nous mourons à nous-mêmes, nous verrons le tonnerre de sa puissance. Parce que la question, elle est formidable. Dieu la pose, il faut y répondre. Qui nous fera voir le tonnerre de sa puissance? Eh bien, on va tous lever la main. Eh bien, avant de lever la main, est-ce qu'on est tous à même de dire, oui, je veux payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un prix à payer. Il y a ça dans ma vie qui fait obstacle. Eh bien, je m'en débarrasse. Il y a... Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie. Je ne sais pas, moi, les victoires, quand je pense à mes victoires, je suis heureux. Vous avez pris des victoires, non? Vous étiez triste après les victoires? Quand vous avez abandonné une idole, vous avez pleuré pendant 3 semaines? Ou vous avez sauté de joie? Sérieusement, qui pourrait dire, ah, oh, Seigneur, c'est que vous aimez le péché. Si ça vous porte peine de vous débarrasser d'un péché, je suis désolé de vous dire, c'est que vous aimez le péché. Oui ou non? Parce que la Bible dit que celui qui est... Que Dieu bénisse celui qui est honnête. Oui ou non? Si vous aimez le péché, eh bien, que celui qui se souille, eh bien, souillez-vous. Je vous le dis. Je sais que je rendrai compte à Dieu pour chaque prédication. Mais je sais ce que je dis. Vous voulez vous souiller? Eh bien, continuez à vous souiller. Mais si vous voulez vous souiller, ayez l'honnêteté de vous retirer. Parce que je crois que dans l'Église, il ne faut pas qu'il y ait des interdits. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église, il faut ou se retirer, ce qui n'est pas la solution. Bien sûr, la solution, c'est de prendre la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez me dire, mais c'est une des premières fois que vous parlez comme ça. Eh bien oui. Mais parce que c'est peut-être une étape dans laquelle Dieu veut nous amener un peu plus loin. Ou alors on continue avec le bord de ses voies, le bruit léger de ses pas. Ou alors on enclenche dans une piété qui amènera la puissance du Seigneur. Et je suis très sérieux, je ne méprise personne, je ne vous connais pas tous très bien, même si on se connaît depuis longtemps. Moi, je crois qu'on devrait, d'ailleurs la Bible dit, ôter le méchant du milieu de vous. Et si on connaît quelqu'un qui vit volontairement dans le péché, on doit lui demander de se retirer ou de prendre la victoire. Ou de prendre la victoire. La Bible nous dit d'aller, va très loin là-dedans. Je vais étudier justement la doctrine par rapport à ça avec le pasteur, parce que la Bible nous demande même de ne même pas manger avec un homme qui se dit un frère. Vit dans la débauche ou le péché quelconque. C'est écrit ou c'est pas écrit? Quand Jésus a prié, ils ont entendu le tonnerre. Dieu envoie le tonnerre toutes les fois où l'agneau est offert tout entier. Et si nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, si nous nous décisons, je ne parle pas de, on a droit à la détente. Moi ce matin, on a été marcher avec ma femme pendant 1 heure, ça nous a fait du bien. Mais est-ce que ça ne m'a pas empêché de me tenir devant Dieu, ça ne m'a pas empêché de faire tout ce que j'avais à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne tombons pas dans du légalisme stupide. Je crois qu'il y a un temps pour tout, mais il y a des choses qui sont en abomination à Dieu. Et ça, il faut le régler. Et je vous demande de prier pour moi, pour que Dieu m'inspire, pour qu'on puisse aller plus loin dans la vie de l'esprit dans l'église. Nous, on ne veut pas une église qui marche bien, une assemblée joyeuse, une assemblée où il y a la communion fraternelle, une assemblée où il y a de l'argent. C'est bien tout ça, c'est très bien. Mais on veut une église où le Saint-Esprit ait toute la liberté de se manifester, où la volonté de Dieu soit faite. Vous êtes d'accord? Alors je le répète, mes frères et sœurs, continuons à prier, à supplier Dieu. Priez pour que je prie, priez pour que je n'arrête pas de prier. Prions pour que le Seigneur se révèle. Si vous voulez rester dans le péché, eh bien restez-y, mais retirez-vous. N'amenez pas la malédiction dans l'église. Je vous assure, je sens moi-même dans mon cœur que ce que je dis, je suis poussé par le Saint-Esprit. Mais je sais que c'est à ce prix-là que nous aurons la bénédiction et la victoire, la guérison. Vous ne croyez pas que si le Saint-Esprit nous visite en 5 minutes, il peut faire plus qu'en 20 ans? Et guérir les malades, vous croyez que ça va le compliquer au Saint-Esprit de sortir Dimitri de son fauteuil ou Monsieur Régnier de son coma? Vous croyez que Dieu n'est pas toujours capable de ressusciter les morts, etc.? Vous ne le croyez pas? Mais le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est une question d'intégrité dans l'Église. Il faut ôter les idoles qu'il y a dans notre cœur. Et je vous dis, et offrir notre agneau, notre vie. Ça a plu au Seigneur. Vous voyez, on le relit parce que maintenant on est imprégné de ça. Mais regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, ce qu'on a lu tout à l'heure. Vous voyez, là, maintenant qu'on l'a lu, ça va vous attirer, ça va vous captiver. Quand le tonnerre, quand Jésus a parlé, ils ont entendu le tonnerre. Mais pourquoi? Eh bien parce que Jésus allait offrir sa vie.
Voyez, Jean 12, 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue. J'aimerais pouvoir dire pareil, l'heure est venue où le tonnerre va venir. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, vous avez vu la suite ? Le Père l'honorera. Maintenant, mon ombre est troublée, bien sûr, pensez donc, avec ce qu'il attendait. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. C'est ça que nous avons, mes frères et sœurs, besoin. Que du ciel vienne la voix de Dieu. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Eh oui, c'était un coup de tonnerre. Dieu parlait, Dieu intervenait. Son propre fils offrait sa vie. L'agneau allait être offert tout entier. Je le disais dimanche, quand on lui a percé le côté, il est sorti de l'eau. J'expliquais que ça veut tout simplement dire qu'il avait donné tout son sang. Il a versé tout son sang. Si de l'eau est sortie de son côté, c'est qu'il n'avait plus de sang. Il a donné toute sa vie, entière. Et nous sommes bénis aujourd'hui. Oui, quand ça plaît à Dieu, il envoie le tonnerre. Samuel a offert un agneau tout entier et Dieu a combattu pour eux. Si nous voulons que Dieu combatte, si nous voulons que nous contenter du bord de ses voies, ben continuons comme ça, continuons. Peut-être quelqu'un me dira, mais moi ça me va bien comme ça. Mais je ne sais pas. Le Seigneur est à la porte, peut-être nous sommes à quelques jours, quelques mois de l'enlèvement de l'Église. Cela ne vaut-il pas la peine qu'on puisse se dire, mais je vais. Seigneur, il y a ça, il faut que j'y arrive. Est-ce que Dieu va vous aider ? Est-ce que Dieu va aider quelqu'un ? Est-ce que Dieu va te dire, attends, je vais voir celui-là s'il y arrive. Je vais le voir celui-là, je vais le tester. Vous ne croyez pas qu'avec ce qu'il a fait sur la croix, il peut délivrer quelqu'un ce soir ? Pourquoi il a payé ? Pourquoi il a tant payé ? Pourquoi il a tant souffert ? Tout est accompli. On ferme les yeux un instant. Je m'adresse à ceux qui veulent voir, à ceux qui veulent être sérieux. J'ai dit des choses sévères ce soir, j'en suis conscient. Mais je crois que c'est à ce prix-là, à ce prix-là. Je m'adresse en particulier aux jeunes qui portent les idoles dans leur cœur. Je le sais, le Seigneur me l'a montré. Vous êtes plusieurs jeunes, vous avez des idoles dans vos... Vous êtes capables de vous prosterner des heures devant votre écran. C'est une idole. Vous devriez demander à Dieu qu'il vous délivre et qu'il vous donne juste le temps qu'il faut pour vos études et même pour vous détendre. Mais si vous ne vous tenez pas devant Dieu, vous le regrettez, ça vous perdra. Ça vous perdra. Les idoles vous feront tomber dans l'iniquité. Écoutez, pour moi qui l'ai inventé, vous l'avez lu avec moi. Et le diable, il le sait. Mais le serpent, il peut fuir. Vous l'avez lu. Le serpent, fuyard. Si une église résiste au diable, il fuira. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour avoir une réunion de plus. Ce soir, nous voulons entendre la voix qui vient du ciel, qui vient du Saint-Esprit. Nous voulons voir des gens sauvés. Nous voulons voir les gens guéris. C'est pas une ambition personnelle, une espèce d'orgueil. Non, c'est la volonté de Dieu que les gens soient guéris, que les gens soient sauvés, que nos enfants soient tous au Seigneur, que tous nos 28 ados se convertissent. Ça, vous pouvez dire que c'est la volonté de Dieu. Alors qui ce soir, dans son cœur, je ne vais pas faire d'appel à lever la main ou à venir sur le devant, mais pour gêner personne, après tout c'est entre vous et Dieu, parce que ce n'est pas bien de gêner les gens, mais qui dans son cœur, à sa place, se débarrasse de cette idole, de ce péché grossier, vulgaire, peut-être c'est quelque chose de très très sain. Une activité qui vous empêche mais d'obéir à Dieu. Mais qui dans son cœur ce soir ? C'est entre toi et Dieu. Vous voyez, je pourrais faire lever la main, certains le feraient, je sais, mais écoutez, ce n'est pas la peine. Est-ce que Dieu peut guérir un cœur ce soir ? Sans que personne ne se lève, sans que personne ne lève la main. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je dépose mon idole. Je te demande pardon, je suis un interdit dans l'église.
Je suis un pécheur, mais tu as donné ta vie pour tous les pécheurs. Et je sais qu'il n'y a que toi par ta puissance qui peut me délivrer. Peut-être que vous êtes nouveau, peut-être que vous n'avez pas trop compris à cette prédication, mais vous comprenez que Jésus a institué l'Église pour sauver les âmes. Jésus n'a pas institué une religion. La religion, on s'en fiche. La dénomination, excusez-moi, c'est un peu fort, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est la grâce de Dieu. On ne veut pas de religion. On ne veut pas être là, accaparé par notre dénomination. On veut être accaparé par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Si j'ai choqué quelqu'un, veuillez me pardonner. Mais la religion, ça, c'est la mort, la religion. C'est la vie que nous avons besoin. Oui, nous avons connu le bord de ses voies. Qui veut connaître le tonnerre de sa puissance? Qui veut connaître le tonnerre? Qui ce soir dit, Jésus, je m'en débarrasse. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Je m'en débarrasse. Comme on se débarrasse des poubelles. Les poubelles, on s'en débarrasse. Parce que ça nous empeste. Eh bien ça vous empeste. Vous devez vous en séparer. Séparez-vous. Il n'y a pas besoin de séance de délivrance. La Bible dit, abandonnez les idoles. Abandonnez-les. Abandonnez-les. Brûlez-les. Le Seigneur est vivant. Et s'il nous parle de cette façon, c'est parce qu'il a le pouvoir de nous aider. Il a le pouvoir de guérir. Ne dites pas, j'y arriverai pas. C'est pas vrai. Faites fuir le serpent. Le Seigneur, il est un Dieu de victoire. Le serpent, il est fuyant. Lorsque l'Église lui résiste, nous ne pouvons pas concevoir de rester juste avec le bruit de ses pas. Nous voulons voir le tonnerre. Alors débarrasse-toi de tes idoles. Demande au Seigneur qui te débarrasse de tes bases, des Astartés, de tes Baals, toutes ces idoles modernes. Surtout si tu es baptisé. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'avez encore pas fait le choix. Mais si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas un obstacle dans l'Église. Parce que vous ne faites pas partie du peuple de Dieu. Mais si vous êtes baptisé, vous faites partie du peuple de Dieu. Et s'il y a une idole, ça crée un obstacle. C'est pour ça, les pécheurs, ne vous sentez pas traumatisés. Vous pouvez vous convertir ce soir. Et dire à Dieu, je vais te suivre, j'ai besoin de ce sauveur, j'ai peur de l'enfer, ou j'ai peur de la mort, j'ai peur, je veux faire la paix avec toi. Même les chrétiens, vous qui êtes baptisés, par pitié, prenez la décision ce soir de renoncer aux idoles, d'abandonner les idoles, ou de vous retirer. Je le dis devant Dieu, je le dis avec beaucoup de sérieux, c'est biblique. Ce n'est pas une pensée qui m'a traversé l'esprit pour faire bien ce soir. C'est la parole de Dieu. Et là, ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, la délivrance et la victoire, elle est quand une église marche dans une discipline remplie d'amour et de justice. C'est ça que nous avons besoin de voir. Oui, le tonnerre de sa puissance à Toulouse. Et croyez-moi, nos réunions vont changer. Nous viendrons le cœur rempli de joie. La prière ne deviendra pas une corvée, la prière deviendra une bénédiction, un rafraîchissement. Les cultes verront des pécheurs se frapper la poitrine. Les réunions d'évangélisation seront remplies de pécheurs qui donneront leur cœur au Seigneur. C'est ça le tonnerre de sa puissance. Et Dieu le fera si nous nous détournons des idoles dans notre cœur. Mes frères et sœurs, nous allons rechanter ce cantique de la croix, la grâce coule. Dieu est prêt à délivrer. Le Seigneur, il est prêt. Vous avez vu quand le brigand, le criminel, souviens-toi de moi. De suite, Jésus l'a délivré. Tu seras avec moi dans le paradis. Si vous dites au Seigneur, délivre-moi, peut-être que vous avez besoin de rentrer chez vous et de prier tout seul, à genoux, au pied de votre lit. Peut-être maintenant vous avez envie qu'on prie pour vous. Vous avez peut-être besoin de ce moment où on va prier pour vous. On n'est pas quand même à un quart d'heure près. Quand même. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui? Quelqu'un qui dit, oui, j'ai besoin que l'Église prie avec moi, prie pour moi. Peut-être un pécheur qui veut donner sa vie au Seigneur. N'attendez pas, n'attendez pas.
Votre vie ne vous appartient pas. Vous croyez que parce que vous avez 25 ans ou 30 ans, votre vie vous appartient. Et je ne dis pas ça parce que ce n'est pas en mettant la peur de l'enfer, c'est la prédication de la croix qui amène la bénédiction. Ce n'est pas la peur de l'enfer qui amène la bénédiction. C'est la prédication de la croix qui sauve les pécheurs. Alors pendant qu'Alexandre va reprendre ce cantique, si quelqu'un veut s'approcher, parce qu'il sent qu'il a besoin d'être lavé, purifié, peut-être il n'y a personne, vous l'avez fait à votre place, c'est très bien. Peut-être vous le ferez chez vous, mais peut-être quelqu'un éprouve le besoin. Eh bien, approchez-vous. Approchez-vous. Et nous allons bientôt entendre le tonnerre.